Chez nous, là-bas en Corse, on n'a pas de micro. Hein. On en a un, mais moi je ne mets pas parce que.
Il est là, il est là.
Avec ma voix.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Merci Joël.
Il est super Joël. Hein. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Voilà, je vous apporte les salutations de Corse. Voilà, donc il savait que mon épouse et moi, que nous serions là de passage sur Istres. On est passé sur Nice, là où nous sommes nés. C'est-à-dire spirituellement, hein, parce que moi je suis d'origine italienne. Voilà, je renie pas mes origines et je bénis le Seigneur de ce qu'un jour, eh bien, il nous a appelés à son service. Et je pense qu'il est tellement bon de partager la parole de Dieu. D'ailleurs, vous savez, la parole de Dieu, vous savez de d'où vient le mot copain ? Ça veut dire, copain, ça veut dire qu'on partage le pain. Hein ? Ça vient de partager le pain, ça c'est formidable. Mais nous, on partage le pain, on partage la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je ne sais pas si ce soir nous sommes tous au Seigneur. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelquefois, on veut avancer dans la vie, mais il y a tellement de choses qui veulent nous retenir et veulent que nous puissions regarder en arrière. Et vous savez, des fois, c'est pénible parce que quand on se retourne, eh bien, on s'aperçoit que notre passé est là. Et quelquefois, quand le passé est toujours présent, eh bien, même pour le chrétien, des fois, il y a des difficultés à dire « Seigneur, je tire un trait une fois pour toutes ». Et je vais de l'avant. Et nous allons voir ce soir que l'apôtre Paul, il a écrit dans l'épître aux Philippiens, à une lettre qu'il a écrite à des amis, à une famille. Hein, c'était tellement important pour lui. Et il va nous dire ceci, si vous le permettez, on va lire dans Philippiens 3, versets 1 et 14. Voilà, et il nous a dit ceci. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu que nous glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On peut dire amen, alléluia. Hein, on a toujours l'habitude de lire l'apôtre Paul. Hein, l'apôtre Paul, si on enlevait tous les écrits de Paul, je crois que dans le Nouveau Testament, il ne resterait pas grand-chose. Hein. Bien sûr, il y a les évangiles, mais au-dessus des hommes, il y a Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il reste le même, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, au travers de cette parole, eh bien, nous pouvons voir que c'est à l'occasion d'une vision hein, que l'apôtre Paul a eue. Eh bien, dans cette vision, il voit un Macédonien qui lui dit « Viens et secours-nous hein. ». Viens, c'est comme une supplication. Et donc, il cherchait comment atteindre eh bien, les âmes. Et voici que Dieu va donner à cet homme cette vision. Et va surtout, bien, c'est à l'apôtre Paul qui va avoir cette vision. et qu'il va recevoir eh bien, cet appel. On sait que lorsqu'il va arriver hein, là sur, en Asie, en Philippe, dans cette ville de Philippe, ça n'a pas été simple. Même si au départ, il y a une femme, Lydie, vendeuse de pourpre, la parole de Dieu dit que Dieu va ouvrir son cœur. Elle a été attentive à ce que l'apôtre Paul lui a dit, et puis elle va se convertir. Le miracle. Hein, nous avons parlé du miracle, mais vous savez, le plus grand des miracles, c'est qu'un cœur se met à battre pour Dieu. Alléluia. Hein, ça, c'est le plus grand des miracles. Oui, on peut voir, bien sûr, que le Seigneur bénisse quand on voit des hommes et des femmes guéris de toutes sortes de maladies. Alléluia. Être délivrés de toutes sortes de possessions. Mais le plus grand des miracles, c'est qu'un cœur puisse se dire, maintenant, je sais que Jésus-Christ, eh bien, c'est mon sauveur. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Et on sait que l'Évangile, eh bien, c'est pas toujours quelque chose que nous pouvons dire, mais c'est toujours formidable, extraordinaire. L'apôtre Paul, il a fait une réelle expérience et il sait qu'il va au-devant des difficultés, des obstacles, puisque juste après, il va y avoir une femme qui a un esprit de python, hein, vous connaissez l'histoire, et puis cette femme, elle devinait en procurant à ses maîtres eh bien, un gain extraordinaire. Et puis on sait très bien que l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire « Maintenant, tais-toi hein, ». Il va quand même faire taire cette femme. Et puis, on sait que les maîtres vont perdre un peu tous les gains hein, de ce que cette femme elle pouvait procurer. Et puis, Paul et Silas se retrouvent en prison. Vous savez, quelquefois, ce ne sont pas toujours les chemins que nous, eh bien, on pense passer, on pense dire « Ben moi, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais passer par là, je vais faire autre chose. » Mais quelquefois, nous passons par des choses eh bien difficile, mais l'important, c'est que le Seigneur, il reste avec nous. Et l'apôtre Paul a compris cela. Et même là, dans la prison, dans cette prison, eh bien, en plein milieu de la nuit, eh bien, après avoir reçu des coups, après avoir reçu toutes sortes de coups là, dans le dos et de partout, eh bien, ils auraient pu dire, oh là, Seigneur, je ne comprends pas. Hein? Quelquefois, on dit ça, mais Seigneur, je ne comprends pas, je t'appartiens. Et pourquoi il m'arrive cela? Et pourquoi pas? Parce que finalement, comme je le dis souvent, nous le savons, frères et sœurs, et puis je crois que l'évangile que nous annonçons, que nous avons reçu, ce n'est pas un évangile simplement à l'eau de rose. Il n'y a pas simplement les pétales, il n'y a pas simplement que les feuilles, mais il y a aussi les épines. On a chanté aussi tout à l'heure que le Seigneur, il a pris cette couronne d'épines. Mais ça ce n'est pas dans notre nature de pouvoir croire ces choses-là. Et pourtant même dans la difficulté, dans les choses les plus difficiles, eh bien Dieu peut se glorifier. Et Dieu peut se manifester. Alors il nous dit que dans la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, au lieu de dire « Seigneur, je ne comprends pas, et j'ai mal, et pourquoi ceci ?» Ils vont chanter des cantiques, ça c'est formidable ça. Hein, ils vont glorifier le nom du Seigneur. Et puis là, vous connaissez l'histoire, le geôlier qui est là, et à un moment donné, ben, il y a eu comme un tremblement de terre, et la parole de Dieu dit que les portes de la prison se sont ouvertes, et tous les prisonniers, eh bien, ils pensaient, ce geôlier, qu'ils étaient partis. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul dit, nous sommes tous là. Et cet homme, qu'est-ce qu'il va dire? Et il demanda de la lumière. C'est formidable cela. Hein? Et puis il va lui annoncer l'évangile. Il va annoncer cette parole extraordinaire. Et puis l'apôtre Paul nous dit que non seulement eh bien, ils vont prendre Paul et Silas chez eux, mais toute la famille vont se convertir. Alléluia. Ça, c'est formidable. Le plan de Dieu, c'est d'aller là à Philippe, mais c'est aussi de sauver cet homme, ce geôlier, et de sauver aussi toute sa famille. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, tous ceux et toutes celles eh bien, qui en ont marre de dire eh bien, ma vie, c'est pas simplement de dire eh bien, l'avenir, eh bien, j'avance et puis à un moment donné, on arrête tout. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, eh bien, parce qu'ils ne croient plus en rien, eh bien, ils se réfugient même dans la mort. Hein, je ne vous apprends rien. Quand on entend ça, on se dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Autrefois, il y avait une crainte, il y avait comme une moralité qui était là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de frein. Les gens disent, il n'y a plus rien, donc ils se réfugient dans la mort. Ils se réfugient dans tout ce qui est le néant. Et on sait très bien que si nous partons de cette terre perdue, sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ, sans l'avoir reçu comme Sauveur et Seigneur, eh bien, on est perdu pour l'éternité. Plaise au Seigneur que le Saint-Esprit eh bien, puisse toucher eh bien, tous ceux qui nous entourent et que nous puissions être renouvelés. Mais surtout, nous voulons dire au Seigneur, mon Dieu, je veux avancer. Il y a peut-être eu des choses difficiles, peut-être des choses qui m'ont fait mal, mais Seigneur, je t'ai reçu dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur, et j'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, de regarder à ce que toi tu es, parce qu'on dit souvent, Seigneur, tu m'as préparé une place, tu m'as fait des choses merveilleuses. Mais la parole de nuit que l'apôtre Paul dit, mais maintenant, oubliant ce qui est en arrière, eh bien, je me tends eh bien, vers ce qui est en avant. Je veux ce but. Ce but, ce n'est pas simplement de dire, l'essentiel, c'est de pouvoir être chrétien. Mais il ira beaucoup plus loin, afin de remporter le prix. Vous voyez, c'est toujours bon d'être le premier. Vous savez, dans les choses du monde, les gens veulent être premiers. Mais nous voulons dire, Seigneur, ce n'est pas suffisant de dire, Seigneur, je t'appartiens, mais Seigneur, je veux remporter ce prix. C'est-à-dire, Seigneur, je veux te servir. Vous savez, je le disais il n'y a pas longtemps, il y a toujours deux sortes de personnes. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui servent Dieu et des personnes qui se servent de Dieu. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de dire Dieu par-ci, Dieu par-là, mais quand on voit leur vie, eh bien leur vie, malheureusement, elle ne reflète pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils vivent. Et ça, ça fait quand même quelque chose qui peut faire beaucoup de peine. Bien sûr, à l'homme, on ne fait pas de la peine, mais on fait de la peine à Dieu. Et je crois que c'est tellement important que si nous voulons vraiment dans notre cœur que ce que nous disons, c'est ce que nous vivons, eh bien Dieu va se glorifier, alléluia. Dieu va se glorifier. Alors j'ai besoin de dire, maintenant j'en ai assez de me plaindre, comme le petit Calimero, excusez-moi, que dire maintenant, c'est toujours la faute des autres. Mais à un moment donné, j'ai besoin de regarder, eh bien devant, et de dire, Seigneur, je ne veux plus regarder ce qui est en arrière, mais je veux véritablement marcher là devant toi. Vous savez, là, c'est quelque chose de tellement important. Et nous l'avons vu dans ce chapitre 3, verset 1er. J'ai dit au reste, frères, réjouissons-nous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que finalement, il n'y a que dans le Seigneur qu'on peut vraiment se réjouir. Si on a Jésus dans notre cœur, on peut réellement se réjouir. Parce que Jésus est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul voudra dire cela, si tu as Christ, bien tu n'as rien à craindre. Non pas un peu de Dieu, un peu de Christ, un peu du Seigneur, un peu là dimanche, un peu en semaine, mais non. Seigneur, tu dois être le premier. Je me réjouis parce que Seigneur, je suis dans la course, alléluia. Je suis dans la course. Hein, je ne suis pas à dire, vous savez souvent on dit, mais vous savez moi je ne suis pas grand-chose. Oui, on n'est pas grand-chose. Mais dans ce pas grand-chose, Dieu veut se servir de toi, alléluia. De chacun de nous. Et chacun de nous, nous avons reçu pas grand-chose, peut-être un talent, peut-être deux, mais qu'en faisons-nous ? Seigneur, j'ai vraiment besoin eh bien, de pouvoir me mettre en avant, Seigneur, de courir. Vous savez, vous avez déjà couru en arrière, vous ? Hein, vous avez déjà fait une course en arrière ? Je cours comme ça, non, mais je cours en avant. Voilà, je cours en avant. Et ça, c'est tellement important, cela. Tellement important de réaliser cela. Alors le but, c'est de pouvoir atteindre, et l'apôtre Paul n'a pas peur de le dire, c'est d'atteindre la perfection. Parce qu'il a compris que la perfection, elle n'est pas dans ce monde. Et même si on dit chacun de nous, on n'est pas parfait, mais quand on regarde son frère, on regarde les gens autour de nous, quelquefois on dit, mais je ne juge pas, mais je constate. Mais que le Saint-Esprit nous montre réellement ce que nous sommes. On n'est pas grand-chose. Seigneur, montre-moi que j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de faire taire peut-être toutes les paroles qui sont ressorties de mon cœur, toutes ces choses qui m'ont fait du mal et que finalement, eh bien, je fais du mal aussi. Mais j'ai besoin de courir. Paul dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais je cours pour tâcher eh bien, de le saisir. Et nous l'avons lu dans le verset 13, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Le but, c'est qu'un jour, on se retrouve dans le ciel, alléluia. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas simplement de dire, bien, on a rempli l'église. Mais le but, c'est de remplir le ciel, alléluia. Seigneur, aide-nous. Moi, je le dis souvent pour moi. Je le dis pour chacun de nous aussi. Parce que vous savez, avec notre témoignage, on peut attirer quelqu'un pour l'amener à Christ. Avec notre témoignage, on peut l'éloigner à tout jamais. À tout jamais. On peut dire, mais si c'est ça, tu me parles de Dieu, tu me parles du Seigneur, mais moi je ne veux pas devenir comme toi tu es. Et c'est pour cela qu'on a besoin. Mais On en a assez de se cacher derrière tous ces paravents, mais de dire, Seigneur, je vais être vrai avec toi. Je veux vraiment, Seigneur mon Dieu, je veux oublier, mais Seigneur, je veux surtout courir. Parce que c'est bien beau de pouvoir oublier. C'est bien beau de dire, maintenant j'oublie, c'est fini, et je repars. Mais si je repars avec le même état d'esprit, eh bien je vais encore me ramener toujours à ce qui est en arrière. L'apôtre Paul aurait pu dire, moi, ce que j'ai reçu cette loi, et quand il dit que cette loi, il a suivi. Si lui-même il dit, j'ai été circoncis de la tribu de Benjamin, eh bien pour lui, eh bien il a suivi toute la loi. Il était irréprochable selon la loi. Il a suivi toute la loi. Et pourtant il a trouvé quelque chose de meilleur. Il a trouvé ce Christ. Il a trouvé ce Sauveur, alléluia. Il dit, j'ai été saisi. Ça, c'est formidable. On peut oublier beaucoup de choses, mais n'oublions pas d'où nous venons. Vous savez, quand je passe par des moments difficiles, vous non, hein, vous êtes toujours impeccable. Hein, vous êtes toujours... mais quand on passe par des moments difficiles, parce qu'on passe par des déserts, on passe par des choses qui quelquefois on dit, Seigneur, mais jamais j'aurais cru que je devais passer par là. Mais nous l'avons dit tout à l'heure. En toutes circonstances, le Seigneur, lui, sera avec nous. L'essentiel, c'est de le croire. Parce que, comme Joël, il pourra vous le dire, on n'annonce pas un évangile en disant, viens Jésus, tu verras, tout sera parfait, tout sera extraordinaire. Non. Mais simplement, on dira, mais avec Jésus, il va te donner quelque chose de meilleur. Parce que ce n'est chrétien, ce n'est pas simplement pour les choses d'ici-bas. Alors si on n'arrête que pour les choses d'ici-bas, on sera bien malheureux. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on a ici-bas? On n'a pas grand-chose. Le bonheur est éphémère. Les moments de réjouissance, ils sont tellement éphémères. Je crois qu'on peut se réjouir que quand on est ensemble dans la famille de Dieu. Ça, c'est formidable. Ça, c'est extraordinaire. Quand on est ensemble, et tout à l'heure, quand je chantais ces cantiques, ben, je me sentais apaisé, je disais, oh, Seigneur, merci, parce que je suis dans la famille de Dieu. Je suis dans cette famille, et Seigneur, toi, tu répands au milieu de nous cette bonne odeur. Tu es là, au milieu de nous. Vous voyez, ces chrétiens de Philippe, combien de fois, si vous lisez dans Philippiens, au chapitre 2, verset 25, et au chapitre 4, verset 10, vous voyez que l'apôtre Paul va se retrouver là à Rome, dans la prison. Et pourtant là, ces chrétiens ont toujours été là. Il va les remercier en disant, nous sommes une famille. Et la famille, eh bien, c'est en toutes circonstances. Ce n'est pas de dire, eh bien, c'est formidable d'avoir une famille et on n'oublie pas notre famille naturelle, mais je crois que la famille de Dieu, elle est aussi importante et je dirais même peut-être plus. Parce que cette famille-là, elle saura me comprendre. Elle saura non pas me juger, mais elle sera là pour prier. Elle sera là pour dire, eh bien, tout simplement, eh bien, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Parce que le problème du frère et de la sœur, c'est mon problème. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe, mais je veux prier et je veux croire que tu peux changer les situations. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui nous donne de réaliser quel privilège nous avons de pouvoir prier les uns pour les autres. Et dire, Seigneur, toi tu es grand et toi tu es merveilleux. Amen. Alors, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Alors, c'est vrai qu'il parlera de ce prix. Et le verset 12, nous l'avons lu, pas ce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses qui nous échappent? Et des choses qu'on a cru qu'on ait compris, et puis finalement on retombe dans les mêmes travers. Je suis peut-être le seul. Hein. On a cru. On a dit, Seigneur, ça y est, j'ai compris. Mais on a besoin vraiment du Saint-Esprit. Parce que notre intelligence, on en a besoin. On a besoin de notre tête. On a besoin des... Mais on sait très bien que par notre intelligence, même s'il y a un renouvellement de l'intelligence, on a besoin surtout d'un renouvellement de notre cœur. Seigneur, renouvelle. Donne-moi que le Saint-Esprit soit vraiment réel. Que Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as subi, ce que la croix, tu es monté à la croix, que ce soit réel. non pas comme quelque chose qui est comme une image, comme quelque chose qui est là pour simplement nous dire, mais oui, il est mort une fois pour toutes. Mais Seigneur, comme je disais il n'y a pas longtemps, si j'oubliais Golgotha, ramène-moi à Golgotha, Seigneur. Ramène-moi afin de saisir eh bien, ce que tu as eh bien, me dire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pourra dire aussi, nous avons été saisis, pour rencontrer ce merveilleux Sauveur. Et nous savons que l'arrivée, eh bien, c'est le prix céleste, eh bien, c'est Jésus-Christ. Paul dira, la couronne de gloire, elle m'est réservée. La couronne de gloire m'est réservée. Alors, j'ai voulu prendre quelques exemples bien rapidement. Il y a, lorsque Abraham et sa famille vont quitter Charan, ils vont être conduits, et la parole nous dit dans Hébreu au chapitre 11, je crois que le frère l'a noté, Hébreu 11, verset 13 à 16, dit que c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La mort est intervenue et pourtant c'est une marche dans la foi. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'Abraham et sa postérité, ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous voyez, ils cherchaient une patrie, et s'ils avaient en vue celle qui était dont ils étaient sortis, eh bien, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils ne voulaient pas retourner. Parce que ce qu'ils recherchaient, c'est cette patrie céleste. Ils avaient reçu dans leur cœur quelque chose qui peut-être leur échappait. Mais si nous lisons de plus près, on s'aperçoit que, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et comme on peut, si on revient à Paul, c'est comme Paul dit, je cours pour saisir. Et c'est par le Saint-Esprit que nous saisissons ces choses. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire, Seigneur, je sais que dans le ciel, tu m'as préparé une cité céleste. Il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon. Je cours vers le but. Et c'est pour cela que le but, il est céleste. Et nous pouvons dire que Jésus-Christ, eh bien, c'est lui. C'est en lui, quand je me repose en lui, quand je m'appuie sur lui, quand je dis, Seigneur, maintenant, je veux faire taire toutes ces voix qui me disent, tu vois, pour toi, ça réussira jamais. Tu as toujours été comme ça, même si aujourd'hui tu es chrétien, mais tu vois, ça continue. Les choses qui t'ont tenu, ils te tiennent encore. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit une chose. Si vraiment tu me laisses faire, si tu me laisses faire. Vous savez, quelquefois on croit que les choses viennent de nous. Mais n'oubliez pas que notre nature, elle est pécheresse. Nous sommes justifiés par le péché. Mais la nature, elle est là. Il n'y a que Christ, de ce miracle. Il peut nous donner justement de nous délivrer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ne peut venir que de Dieu. Seulement, on ne le croit pas. On le croit pour les autres. Mais c'est pour nous. Eh bien, Seigneur, eh bien, moi, je continue. Je continue depuis le début, même si ça ne va pas, mais je continue. Mais vous savez, comme a dit quelqu'un, un chrétien triste est un triste chrétien. Mais que si je suis rentré dans la vie chrétienne, il doit y avoir la joie, il doit y avoir un changement, une transformation, il doit y avoir bien une plénitude en moi. Non pas pour dire, il faut encore que j'aille à l'église, il faut encore que je puisse prier, et puis ça ne va pas, même si ça ne va pas, eh bien je dois quand même y aller. Mais ce n'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, eh bien, c'est ce Jésus-Christ qui m'a saisi, alléluia. Il a saisi mon cœur, il a saisi ma vie. Et je bénis Seigneur parce que, bien, Dieu nous dit que maintenant, c'est lui et lui seul. C'est lui seul qui te délivrera. C'est lui qui donnera, eh bien, la vie. L'Écriture nous dit dans Hébreux, chapitre 12, au verset 1er, nous dit que le péché, il nous environne si facilement. On croit que nous, en tant que chrétiens, ça y est, maintenant on peut faire ce que l'on veut parce que nous avons été délivrés. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que si cette vieille nature est toujours là,
Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur, lui, il nous rend plus fort que cela, plus fort que le péché, plus fort de ce qui prend eh bien, la place du Seigneur. Et combien de fois nous l'avons expérimenté. Peut-être que ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre peut-être ces paroles, parce que peut-être se dit, mais peut-être je suis tout seul. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Vous savez, moi je dis souvent, il y a des choses que l'on voit et des choses que personne ne voit, mais que le Seigneur, lui, voit. Alléluia. Ça, c'est important, ça. Le Seigneur, il voit. Mais s'il le voit, il ne le voit pas pour nous condamner. Il n'est pas là pour dire, pour toi, c'est fini, parce que je t'avais dit ceci, je t'avais dit cela. Vous savez, avec Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, lui, ne dit pas, je t'ai dit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, pour toi, c'est fini. Non. Mais avec le Seigneur, il y a toujours un commencement des choses qu'on n'a pas comprises. Et ça, c'est quand même important. Vous savez qu'on peut avoir 5 ans de conversion ou 40 ans. Vous savez, ce qui est important, c'est que tous les jours, on a besoin d'apprendre du Seigneur. On a besoin d'apprendre du Seigneur. On n'est pas arrivé, mais on est dans la course. C'est quand on s'arrête, c'est quand on laisse l'ouverture à l'ennemi, quand on laisse l'ouverture au péché. Alors là, on ne court plus, on commence à marcher, on traîne les pieds, et puis un beau jour, eh bien, nous revenons en arrière. C'est un peu l'image de la femme de Lot. Quand la femme de Lot, les anges ont dit maintenant, il faut sortir de là, il ne faut pas se retourner. Alors, cette femme, elle s'est retournée. Alors, on a dit beaucoup de choses de cette femme. Peut-être, parce que vous savez, la Bible ne le dit pas. On peut faire dire beaucoup de choses. Il y en a qui ont dit que peut-être que le cœur, il était encore là-bas à Sodome. Peut-être que leur cœur est encore là, mais la parole de Dieu n'en parle pas. Mais ce qui m'a étonné dans ce verset, hein, vous pourrez le lire, c'est dans le livre de la Genèse. Hein, je pense que le frère, il va peut-être le mettre. Genèse chapitre 19, verset 20. Que ce qui m'a étonné, c'est que comment se fait-il que cette femme, elle était changée en statut de sel. Ça m'a étonné. Je ne sais pas, vous avez jamais posé la question. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et je crois que nous, aujourd'hui, on a peut-être un élément de réponse. Parce que le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez, si vous lisez dans Matthieu 5, 13, il dit, Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous n'êtes pas une apparence. Et cette femme en statut de sel, c'est retenez, moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est qu'on a souvent l'apparence. Il y en a qui ont l'apparence, mais ils n'ont pas ce sel, ils n'ont pas ce témoignage. Et tôt ou tard, vous savez, comme quelqu'un disait un jour, il vaut mieux être acteur que spectateur. Vous voyez, des fois on dit, voilà, on est devenu eh bien, comme une icône, mais nous l'avons dit, et puis Joël l'a dit tout à l'heure, au milieu de nous, il y a plus grand que les hommes. Il y a Jésus-Christ, alléluia. Et nous voulons rappeler ces choses. Et vous savez, quand on regarde de plus près le sel, ben le sel, eh bien, il doit connaître un raffinement. Vous savez, il doit être raffiné, traité une matière pour les débarrasser de leur impureté. Vous voyez, pour que ce sel, eh bien, puisse être bien convenable. Vous êtes le sel. Eh bien, Jésus a pu dire, vous êtes le sel, ça veut dire que vous êtes raffiné. Vous ne devez plus simplement être comme des spectateurs, comme une statue, en disant « Oui, je suis chrétien et je le garde pour moi. » Mais non, le Seigneur dit « Mais tu as reçu ce sel. » Peut-être, oui, on peut dire « Seigneur, tu vois, j'ai pas la parole facile. » Mais vous savez, moi j'ai rencontré des personnes, même, et n'ont pas parlé, mais on leur dit mais vous avez quelque chose que vous êtes quand même différent. » Et je me souviens d'une personne qui, à son travail, eh bien, à un moment donné, eh bien, elle ne parlait jamais du Seigneur. Mais ces personnes, c'était deux femmes. Eh bien, un jour, on dit, mais vous avez quelque chose que nous, on n'a pas. Et ensuite, cette femme a pu dire, voilà, je suis chrétienne. Elle a pu dire, mon mari, il est pasteur. Ah bon?
Ben j'aimerais en savoir un peu plus. Alors est-ce que votre mari peut venir? Et le mari a été, il a parlé, et voilà, ces femmes, elles sont venues à l'église, elles ont été touchées dans leur cœur. Tout cela parce que finalement, eh bien, on n'est pas resté une statue, mais on est resté simplement en donnant du sel. De même, il nous faudrait être raffinés. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous donner de prendre conscience de ces choses, que la parole de Dieu, c'est cette parole qui va faire son effet. Et c'est pour cela que, vous savez, quand on parle d'une expérience, moi je me dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait une expérience, on a fait une expérience au départ, mais n'oublions pas que le Seigneur veut que nous puissions être renouvelés dans cette expérience. Autrement, le sel que nous sommes, eh bien, il va être fade. Il ne va pas faire son effet. C'est pour cela que Job a pu dire un jour dans chapitre 6, verset 6, « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ?» Vous voyez ? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Et je crois qu'on a besoin de réaliser cela. C'est que la vie avec le Seigneur est peut-être que ce soir, vous allez dire, mais c'est bien beau tout ça, mais ça, c'est ce qu'on aimerait être. Quelqu'un avec du goût, quelqu'un qui porte ce témoignage. Mais vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas par où je suis passé, vous ne savez pas toutes ces choses. C'est vrai, mais Dieu, lui, le sait. Dieu le sait. Et vous savez, peut-être que même vous avez crié dans votre chambre, vous avez crié, mais rien ne s'est fait. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes entre les mains de Dieu, et Dieu voudrait nous dire, ne t'arrête pas, ne te retourne pas, ne laisse pas accès aux choses où Dieu t'a délivré. Parce que si on revient en arrière, on fait un peu comme ce que dit l'Écriture dans 2 Pierre, au chapitre 2. Il nous est dit que le chien, il a repris ce qu'il avait vomi. Vous voyez ? De ne pas revenir en arrière. Parce qu'on a vite fait. On a vite fait de retourner en arrière. Mais j'aimerais simplement vous dire ceci, que la vraie vie, et vous savez ce que je veux dire, c'est quand dans mon cœur, il y a sa présence. Moi, je voudrais vous dire ce soir que c'est vrai que suivre le Seigneur, c'est pas simplement sa présence. Mais j'aimerais vous dire que si on n'a pas la présence de Dieu, on est malheureux. C'est vrai ou pas? On a beau dire ce qu'on veut. On a beau dire, oui, ce qui est important, c'est de le suivre. Mais si je n'ai pas sa présence? Parce qu'on est fait ainsi. On veut toucher, on veut goûter. On veut que dans notre cœur, il se passe quelque chose. Alors Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de ne pas revenir en arrière, mais j'ai besoin de saisir, d'être saisi à nouveau. J'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin de ta grâce. Et l'apôtre Paul l'a dit mieux que nous. Il dit, tout ce que je pensais être des gains, c'était une perte. Même si nous l'avons dit tout à l'heure, il était irréprochable dans la religion du judaïsme. Il était irréprochable. Mais pourtant, il lui manquait quelque chose à l'intérieur. Il lui manquait vraiment que le Seigneur le justifie. D'ailleurs, nous l'avons lu au verset 9, il dit « Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice de Dieu par la foi, justice qui s'efforçait par la loi de Dieu. » Il essayait par la loi d'arriver à cette justice, mais nous pouvons voir, même s'il a dit, je le répète, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais il possédait en Jésus-Christ, maintenant, l'assurance. L'assurance, de la justification par Jésus-Christ, alléluia. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être assurés de cela. Et nous bénissons le Seigneur. Et peut-être que ce soir, peut-être que quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, je veux comme tout à nouveau saisir ces paroles, saisir, Seigneur mon Dieu, ta main, pas une simple notion de dire, ben oui, ça je le sais, mais que votre cœur puisse saisir eh bien, cette assurance qu'en Jésus-Christ, eh bien, lui, c'est ma justification. C'est ma justification. Devant l'ennemi, devant tout ce qui pourrait me dire, tu vois, tu es un chrétien de pacotille, tu es un chrétien léger. Alors j'ai besoin de dire, Seigneur, c'est vrai peut-être, mais Seigneur, je veux te saisir ce soir. Je veux saisir ta main. Seigneur, je veux saisir eh bien, ton cœur. Seigneur, je veux venir avec toi. Et pourtant, voyez, l'apôtre Paul, il dira que l'avenir est plus glorieux. Alléluia. C'est ici-bas qu'on souffre. C'est ici-bas eh bien, qu'on dit, Seigneur, qu'on aspire à des choses que Dieu veut peut-être nous donner. Mais la parole de Dieu nous parle, et nous l'avons dit tout à l'heure dans le verset 8, « Je regarde comme une perte toute chose comme des gains à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Alléluia. Et je voudrais simplement vous dire ceci, qu'il y a dans le verset 9, il dit « afin de gagner Christ, Christ, et que le Seigneur vraiment puisse nous faire réaliser eh bien, ces choses. » Alors, et le temps passe, alors je ne voudrais pas, il parlera de la boue, il parlera de tout ce qui concerne eh bien, les choses d'ici-bas. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des vases de terre, et ce que nous portons, eh bien, c'est un trésor. Nous portons ce message de miséricorde, d'amour, ce message de grâce. Nous bénissons Dieu parce que Dieu, il nous a sauvés, Dieu t'a sauvé. Rappelle-toi cela, que Dieu t'a sauvé, et pour que tu portes eh bien, ce trésor, et que dans ton âme, eh bien, il y ait vraiment la joie du racheté. Tu es fait peut-être de terre, de la boue, pas grand-chose. C'est vrai, nous l'avons chanté, né de la poussière, on n'est pas grand-chose. Mais nous voulons, et peut-être que ce soir, tu as besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, eh bien, te forme à nouveau. Parce que le péché, lui, déforme. Le péché, dans toutes ses actions, eh bien, il peut déformer. Mais le verset 10 nous dit ceci, « afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». La communion de ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort. Vous savez, il y a quelque chose, j'ai bientôt fini, hein, excusez-moi d'être un peu long, mais je pense qu'il est bon de pouvoir dire ces choses-là. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de lorsque Jésus avait une famille d'amis, vous connaissez, c'est Marthe, Marie et Lazare. Et en relisant le chapitre 11, de Jean, ben je me suis aperçu que Marthe, eh bien, elle connaissait Jésus, et l'a souvent reçu, et elle aimait Jésus. Nous pouvons dire que Marie, elle connaissait Jésus, elle avait une communion eh bien, avec lui, puisque nous a dit qu'elle se tenait à ses pieds. Mais si on regarde Lazare, vous voyez, Lazare, on pourrait rappeler, c'est que Lazare connaissait Jésus, et il a connu sa puissance. Il a connu sa puissance. Parce qu'il a connu donc la puissance de la résurrection. Pourquoi ? Parce que Lazare, il a entendu dans le sépulcre, il a entendu Lazare sort. Et il est sorti. Il a connu la puissance de la résurrection. Je ne sais pas si on réalise cela. Vous savez, si maintenant Jésus aurait dit Jacques sort, il aurait dit André sort, il serait sorti. Mais là, il a dit, Lazare sort. Il est sorti. Un jour, nous entendrons la voix du Seigneur. Nous serons, si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, nous entendrons la voix du Seigneur qui dira, ben sors. Sors parce que tu es mon enfant. Parce que tu as couru. Il y a eu cette course, ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des choses difficiles. C'est vrai, mais tu es arrivé. Et c'est ça le plus important. Nous entendrons la voix du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, qui serons restés, nous serons levés dans le ciel, dans les airs avec lui. Alléluia. Alors là, on n'aura plus de problème de fin de mois, hein. Plus de problème de payer quoi que ce soit. On sera avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Lazare, il a connu la puissance de la résurrection. Cette puissance, on pourra la connaître donc, eh bien, un jour. parce que nous aurons des corps glorifiés, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je voudrais terminer en disant ceci dans le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc la course, parce qu'il est toujours engagé. Vous savez, moi je disais là, depuis presque 3 ans maintenant, je suis civilement à la retraite. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi jusqu'à la fin les forces qui me resteront. Seigneur, je veux prêcher ton évangile. Je veux prêcher ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux annoncer à ceux qui m'entourent combien tu es le Dieu des jeunes et des moins jeunes. Alléluia. Tu es le Dieu qui restaure, qui renouvelle. Combien c'est bon de servir le Seigneur. Combien c'est bon de lui dire, Seigneur, eh bien je veux et je désire, Seigneur, être avec toi et de pouvoir te servir. Voyez, je cours, eh bien, oubliant ce qui est en arrière, les échecs, tout ce que l'on a pu subir et tout ce qu'on pourra encore subir, mais surtout, peut-être que ce soir, je veux m'adresser peut-être à quelqu'un en particulier, surtout, ne cède pas, ne cesse pas, n'arrête pas. Peut-être dans ton cœur, tu dis, mais peut-être moi, je vais faire un break. Vous savez, ça, c'est les breaks de l'ennemi. Vous avez remarqué des gens, quand on n'est pas bien, je vais faire un break. Je vais faire un break. Mais ça, c'est exactement ce que veut l'ennemi. Tu fasses un break dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle. Il veut que tu fasses un break, ça c'est sûr et certain. Mais peut-être que ce soir, Dieu a cette parole pour toi. Oublie ce qui t'a fait mal, ce que toi tu ne peux pas vaincre. Mais mets-le là devant Dieu. Si le passé peut-être est difficile, rappelle-toi que le présent est peut-être compliqué, mais rappelle-toi que ce qui est glorieux, eh bien, ça va venir, alléluia. Le glorieux, c'est ce qui va arriver, alléluia. Et pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous savez, si vous lisez dans Luc, au chapitre 9, verset 62, il est dit que celui qui met la main à la charrue, qui ne se retourne pas. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai commencé à te servir. J'ai commencé peut-être dans les petites choses. Seigneur, bien, je veux peut-être reprendre ces choses-là. Vous savez, des fois, on parle de faire de grandes choses, mais commence dans les petites choses. Et Dieu va te bénir. Dieu va se glorifier. Alléluia. Ça, c'est quand même très important. Alors, pour remporter le prix de la vocation céleste, il n'y a pas de plus belle vocation que d'être, eh bien, enfant de Dieu. D'être, eh bien, ce merveilleux chrétien. Parce que c'est lui qui nous façonne. C'est lui qui nous donne ce but. Et vous savez, le but, c'est destiné à la gloire éternelle. Parce que si notre but, nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien c'est dit, Seigneur, bénis-moi, remplis-moi, fais-moi du bien. Tu vois, Seigneur, comme j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de m'ouvrir. Parce que Seigneur, tu m'as donné cette course et je sais, Seigneur, qu'un jour, eh bien, je serai avec toi, avec tous mes frères et sœurs et tous ceux à lesquels j'aurai, par la grâce, dit quelques mots. Mais ce sera toi qui les auras sauvés. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Alors, je voudrais vous dire en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Voilà. J'aimerais qu'on lise ça parce que c'est quand même important. Voyez, quand l'apôtre Paul dit « il y a quelque chose de meilleur », comment Paul savait-il qu'il y avait quelque chose de meilleur ? J'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, et on va terminer avec cela. Voyez, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. On pourrait aller un peu plus haut. Et si, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et le verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Alors pourquoi je vous ai lu ces versets ? Parce que d'abord, premièrement, voyez l'apôtre Paul, il parlera à la troisième personne. Il ne dira pas, vous savez, j'ai vu de belles choses, d'extraordinaires, on parle de tunnels, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. On ne dit pas que ce n'est pas vrai. Mais regardez la sagesse de Paul. Sage de Paul, il dit, des paroles, j'ai entendu des choses ineffables. Et j'ai été jusqu'au troisième ciel. J'étais même dans le paradis. J'étais dans le paradis. Et en relisant ces versets, je me suis aperçu d'une chose. C'est que le premier ciel, bien c'est ce que nous voyons, ce sont les nuages. Vous êtes d'accord jusqu'à présent? Le deuxième ciel, c'est quoi? C'est là où vont les fusées. Hein, ils traversent le mur du son, ils vont au-dessus. Mais j'aimerais vous dire que le troisième ciel, là où jamais un profane, ou un incrédule, ou quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'arrivera jamais dans ce troisième ciel. Jamais il n'arrivera au paradis. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez, des fois, on voudrait dire aux gens, mais ne t'inquiète pas, c'est pas trop grave, ce que tu fais, c'est pas trop grave. Mais j'aimerais vous dire que dans ce ciel, il n'y aura pas, eh bien, comme je le disais, de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, des personnes qui n'ont pas rencontré Jésus personnellement, mais ce seront, et bien surtout, mais ces personnes qui ne mettront pas les pieds là où le Seigneur nous a préparé des choses merveilleuses, mais seulement des personnes et bien nées de nouveau. Et j'aimerais encore le dire ce soir, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque peut-être de connaissance, mais j'aimerais vous dire aussi que la parole de Dieu nous parle qu'au préalable, s'il n'y a pas eu cette repentance, si l'Esprit de Dieu ne nous a pas convaincus, on ne peut pas être né de nouveau. On ne peut pas. Et tôt ou tard, on va lâcher. Tôt ou tard, on va regarder en arrière. On va dire, oh, autrefois, je n'étais pas chrétien, mais la vie, elle me semblait peut-être plus facile. Plus facile. Vous savez, j'ai mon papa, il est décédé à l'âge de 63 ans. 62, 63 ans. Il avait connu le Seigneur à l'âge de tout petit, à 17 ans, il a fait une expérience, et ensuite il s'est éloigné de Dieu. Il nous a vu venir, on est 7 enfants, il nous a vu venir un par un, et il pleurait quand il nous voyait arriver à l'église, et il dit, oh là, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais lui, il y avait comme quelque chose qui le tenait. Et quand il voulait prier avec ma mère, eh bien, il ne pouvait pas. Et à l'âge de 61 ans, eh bien son péché l'a repris, puisqu'il fumait beaucoup, et un jour il avait attrapé un cancer. Et en 6 mois, il va être comme balayé. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que j'aimerais vous dire. Dans les derniers temps, d'ailleurs il me l'a dit à moi-même, il m'a dit, surtout il ne faut pas en vouloir à Dieu, parce que Dieu, combien de fois il m'a appelé, combien de fois il m'a dit qu'il fallait que je remette ma vie en règle, mais seulement il y a comme quelque chose qui me tenait, je n'y arrivais pas. Mais dans les derniers temps, eh bien Dieu lui a fait grâce. Il est revenu à Dieu, il a redonné son cœur au Seigneur. Et il s'est approché de ce merveilleux Sauveur. Et pour vous faire court, le dernier souffle qu'il a eu, il a crié à Dieu, il a fait « Alléluia !» Et il est parti dans la gloire. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quelquefois il vaut mieux partir, peut-être à l'âge de 61 ans sauvé, qu'à 120 ans perdu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on s'acharne, on dit il faut prolonger la vie, mais pourquoi faire si on est perdu? On a besoin du Seigneur, on a besoin de sa grâce, on a besoin tout simplement de dire Seigneur, j'ai besoin de pouvoir marcher, de pouvoir courir, et de pouvoir arriver dans l'éternité par la course, elle sera terminée, c'est quand je aurai remporté ce prix qui sera dans le ciel avec toi, Seigneur. Voulez-vous qu'on se recueille quelques instants? Voulez-vous qu'on ferme nos yeux et on va prier? Voilà, je ne vais pas vous faire lever la main ou quoi que ce soit, mais je vais prier. Je vais demander au Seigneur vraiment que ce soir, si vraiment le Seigneur a parlé à votre cœur, je parle sur le plan personnel, peut-être que ce soir, mon frère, ma sœur, moi je ne te connais pas.